voit les prix Nobel et les savants.
Alors nous sommes dans la boutique de la Cité de l'Espace à Toulouse pour une dédicace de Marion Montaigne pour son livre Dans la combi de Thomas Pesquet. Donc je viens le faire dédicacer pour mon fils aîné qui est passionné d'astronomie. Bonjour, je m'appelle Delphine. J'ai regardé rapidement sa biographie et je vois qu'elle est illustratrice de thèmes sur les sciences, de vulgarisation scientifique. Et voilà, je n'ai pas été plus loin. J'ai vu qu'en effet, elle avait fait des choses. Donc je vais maintenant, je sais ça, aller voir de quoi il s'agit de façon plus approfondie. Mais là, j'avoue que je n'ai pas eu le temps avant de venir de regarder tout ça.
Vous connaissez mieux Thomas Pesquet que Marion Montaigne?
Mieux qu'elle, je ne pense pas. Parce que là, j'ai commencé à feuilleter le livre et à le lire pendant que nous attendons notre tour. Et je pense que non, qu'elle le connaît beaucoup mieux que moi. Même si j'ai eu l'occasion de venir l'écouter à la Cité de l'Espace à l'occasion du 20e anniversaire. Il nous a un peu raconté son aventure, mais il a dû tellement vivre de choses que je pense que je ne suis pas encore au point sur toute sa biographie à lui.
Sylvain, Thomas Pesquet, en plus il est déjà venu à la Cité de l'Espace. Bon, j'ai trouvé que c'était en plus une façon humoristique de représenter un peu son périple. Donc voilà, c'était un moyen de l'ordinaire, on va dire, directement, pour avoir un petit bout de témoignage de sa part aussi, quoi.
Est-ce que vous connaissez Marion Montaigne, son travail?
Je connais son travail au travers de la BD, puisqu'elle avait sorti, qui n'était pas du tout dans cet objectif-là, et directement avec l'espace. Donc oui, je connais un petit peu, oui. Bon, j'ai dû lire une ou deux de ses BD, voilà. Où elle a tiré ses idées qui sont issues, qui sont à l'intérieur, on va dire. Et si au moins elle a rencontré aussi Thomas Pesquet, si elle a pu parler avec lui, ou même s'il a vu la BD, et qu'est-ce qu'il en a pensé, quoi.
Puits de science, luminaire céleste.
Vous aussi, vous faites des interactions avec les sciences?
Moi, je fais interaction entre la BD et les sciences. Le défi de raconter en images, en art séquentiel, comment fonctionnent des phénomènes, l'impesanteur, les problèmes physiques des astronautes, par exemple. C'est ça qu'on fait entrer en collision, la science et la BD.
Ça marche, les études?
Les sciences, au départ, c'était pas votre truc?
Ah si, c'est mon truc. J'aurais bien voulu être un vétérinaire, etc. Je pense que c'était tellement mon truc que je pensais qu'il fallait... Moi, j'étais bonne élève, mais en travaillant beaucoup. Et je pensais que pour y arriver, il fallait avoir des facilités. En gros, être celui qui a 18 sans réfléchir, enfin, sans faire d'efforts. Comme je me disais, je suis pas comme ça, j'étais besogneuse. Je me suis dit que j'y arriverais pas, en fait. Mais j'adorais la biologie, en fait. Dès la sixième, j'adorais la biologie. Mais je dessinais aussi. Donc, comme j'avais plusieurs cordes à mon arc, j'ai hésité entre les deux. Donc, j'ai choisi le dessin. Et puis, en fait, je fais ce que j'aime aussi. Je fais les deux, en fait.
Pour apprendre les leçons, c'était en dessinant, c'est ça?
Ah, bah, ça m'aidait bien de visualiser. C'est vrai que je suis assez visuelle. Donc, tout ce qui est l'histoire, par exemple, je suis vraiment nulle. Parce que c'est un art assez oratoire. J'aimais bien la bio. En effet, il y avait pas mal de visuels. Je préfère quand on me le dessine pour m'expliquer. Ouais.
Et les lectures, alors, c'était quoi?
Alors, moi, j'aime bien, des fois, me chercher des vulgarisateurs anglo-saxons. Parce que je trouve qu'il y a... Alors, je connais pas tous les Français. Je trouve qu'ils ont une manière de se mettre au niveau du lecteur. C'est-à-dire, il n'y a pas ce rapport de professeur qui sait et qui va pas simplifier son discours pour le public. Il y a vraiment ce côté... comme si c'était quelqu'un qui était à un bar avec vous et qui vous expliquait ce qu'il savait, etc. Je pense à Bill Bryson, par exemple, ou Marie Roche, que je cite souvent. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un ami qui me parle de ce qu'il a compris. Mais il y en a, le font en français, mais c'est bizarre, je les connais moins. Peut-être qu'en France, quand on est un expert, il faut qu'on le sente un peu. Il y a l'utilisation du jargon ou un ton, un style un peu, pas ampoulé, mais on rigole pas beaucoup. Enfin, je dis pas qu'il faut tout le temps se marrer, mais juste qu'on se détende, quoi. Ça va, c'est pas parce que c'est de la science qu'il faut que ce soit grave. Au contraire, on devrait tous pouvoir en parler, être détendu vis-à-vis de la science pour justement l'interroger, pour pouvoir prendre des faits scientifiques et se dire « Ah, mais c'est bizarre, et si on fait comme ça, etc. » Parce que cette intimidation du fait de professoral, je trouve que ça arrange ceux qui le sont pas, qui se disent « Bon, bah c'est pas pour moi, etc. » Non, c'est pas vrai, c'est fascinant. Et on doit pouvoir aussi se poser des questions d'ordre éthique, même si c'est pas notre domaine, par exemple dans la science. Au contraire, moi je trouve que quand il y a un youtubeur qui raconte n'importe quoi sur la Terre qui serait pas ronde, bah il faut pas un gros bagage pour se rendre compte que ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Et c'est pas parce qu'il a l'air malin ou je sais pas quoi, qu'il sort des trucs Non, il faut que chacun ait un petit esprit critique et pour ça, il faut que les gens aient moins peur. Quand il y a une hiérarchie, il y a de l'intimidation et donc je trouve que c'est dommage. Il y en a évidemment qui n'aiment pas du tout mes BD parce que ça, la science, ça les saoule. Ou côté dictatorial, enfin, professoral, didactique, etc. Là, les ennuie profondément. Moi, il y a plein de sujets que je lis pas parce que j'aime pas ou chacun ses goûts. Mais je pense pas que ce soit auprès de moi qu'ils viennent se plaindre. Je les rencontre pas en fait.
Vous en êtes aussi scientifique. Oui, vous êtes curieuse.
Oui, je pense qu'il y a un côté curieux, bachoteur. En fait, moi, j'aime bien chercher de la documentation, chercher de l'info. J'aime bien aller à la bibliothèque et chercher dans des livres. Mais je sais pas, par exemple, si j'aurais la patience de rester, de passer 5 ans sur une thèse. Si je m'arracherais pas les cheveux ou pleurerais par terre parce que mes expériences marchent pas. J'ai pas à faire ça, en fait. Donc, j'ai l'impression d'avoir, moi, les côtés sympas de la science parce qu'en plus, je peux passer d'un sujet à l'autre. Donc, j'ai pas non plus à non seulement prendre un sujet, mais à aller jusqu'au bout, au fond. Je pense qu'il m'intéresse dans les sujets. Je pense que les chercheurs, ils doivent quand même avoir une certaine imagination ou être même bricoleurs aussi. Parce que, par exemple, j'ai rencontré des éthologues qui s'intéressent au comportement des animaux. Donc, ils leur posent des problèmes, par exemple, des mises en situation. Et je trouve qu'il faut une certaine imagination pour imaginer une mise en place qui pourra mettre en évidence un comportement ou un sentiment. Est-ce que des oiseaux s'entraident? Est-ce que des oiseaux ont de l'empathie entre eux? Comment je le mets en évidence? Quand vous êtes un chercheur qui doit essayer de comprendre que la matière est comme ça, en supposant voilà, qu'un boson de Higgs va exister, mais en mettant l'hypothèse qu'il existe 11 dimensions, enfin, il faut une sacrée imagination pour imaginer qu'il puisse y avoir un monde qui ait plus de dimensions que les nôtres. On s'imagine souvent techniques, mais je pense qu'il y a vraiment des vrais imaginatifs et, beaucoup plus qu'on le pense. Le professeur
Moustache. Et alors sur le blog Tu m'auras moins bête, vous aviez déjà dessiné sur les astronautes, sur l'astronaute qui se lève le matin, qui traverse la fenêtre, tout ça. J'ai regardé les commentaires, puisqu'il y avait le commentaire de Thomas Pesquet, et j'étais assez amusée, parce que ceux qui vous lisent, ils repèrent les petites erreurs.
Oui. Mais c'est trop tard parce que j'ai tout dessiné, j'ai la flemme de tout dessiner. En fait, ce qui est complexe, c'est que des fois, des gens me donnent des conseils, mais ils ont aussi tort que moi. Enfin, il y en a qui disent non, c'est pas ça, c'est ça. Et en fait, je regarde, je vais demander à un spécialiste, il dit non, c'est faux, c'est pas comme ça. C'est là où j'aime bien faire des BD avec vraiment le spécialiste du truc, parce qu'après, quand je reçois des commentaires, j'envoie au spécialiste et c'est lui qui me dit non, c'est pas ça. Il y a commentaire et commentaire, en fait. Donc, il y a ceux aussi qui relèvent. Des petits détails. Ce que j'adore, c'est quand je fais des fautes d'orthographe. Parce que s'ils savaient, je le fais relire par mon conjoint qui est meilleur que moi en orthographe. Donc, en fait, on a évité le pire. Vraiment, on a évité le pire. Et des fois, je reconnais des erreurs. Alors, des fois, il m'est arrivé de faire des erratums dans ma bibliographie parce que ma bibliographie n'était pas bonne, parce que je ne suis pas non plus expert, donc je peux aussi me tromper. Mais en fait, il y a un processus de mise en page qui est... où je fusionne aussi les calques, donc j'ai aussi un peu la flemme de revenir dans mon dessin, de corriger, de reposter, de me réhéberger l'image. Donc je fais, bon, je corrigerai quand ça sera imprimé.
La station spatiale, elle va à quelle allure alors?
Elle va à 28 000 km/h. Ouais. C'est tellement monumental que c'est des distances énormes. Mais en fait, elle tombe là. C'est ça, ce qui a été difficile à expliquer, c'est qu'en fait, la station tombe mais rate sa chute. C'est hyper contre-intuitif, la mécanique orbitale. D'ailleurs, je crois qu'il est possible que j'ai fait une erreur sur les orbites. J'ai vraiment eu un mal de chien parce que c'est totalement contre-intuitif. On ne peut pas aller en ligne droite, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas faire stop et tourner. Il faut toujours tourner comme sur un disque et ensuite changer de sillon, en fait. Et à chaque sillon, il y a sa vitesse. Donc en fait, si vous changez de vitesse, vous changez de sillon, par exemple. Mais si vous restez à la même vitesse, vous allez tourner et vous allez arriver exactement au même point. Mais il ne faut pas que vous ralentissiez, etc. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Donc en fait, la station, elle va tellement vite, en fait, par la vitesse, la force centrifuge, enfin, parce que la planète applique aussi une force. Hein, c'est pas... Voilà, les astrophysiciens vont se rouler par terre en fait. En fait, la station tombe, mais elle va tellement vite qu'elle la rate, en fait. Donc, elle continue à tourner. Donc, c'est assez hallucinant. C'est difficile à s'imaginer. Mais c'est pour ça qu'on envoie aussi du carburant à la station. C'est que des fois, il faut la remettre sur orbite, un peu la remonter. Et c'est génial si vous avez occasion de regarder le documentaire Gravité Zéro de Jürgen Hansson. Vous voyez un moment, il y a Alexander Gerst, l'astronaute, et ses collègues. C'est un moment où la station va être remise un peu à niveau. Donc eux, ils sont au milieu de la station et tout d'un coup, il y a tous les murs qui se déplacent autour d'eux jusqu'à ce qu'ils se fassent cogner par un mur. Donc lui, il ne bouge pas et les murs se déplacent. C'est la station qu'on remet un peu en orbite. Donc c'est assez hallucinant. Tout ce qui est dans l'espace est un peu magique, mais en fait, ça s'explique.
Et aussi, il la déplace pour éviter des débris.
Oui, il y a ça aussi dans ce documentaire. À un moment, ils ont peur que des débris arrivent, donc ils vont s'abriter dans le Soyouz. Donc ils vont dans le Soyouz, ils voient par le hublot les débris qui passent, un peu comme dans Gravity. Alors ils les évitent, ils se sont mis dans la capsule de retour au cas où ça rentrerait dans la station et qu'il y aurait un problème. Donc on les voit, ils regardent par le hublot, et en effet, il y a des traînées, ils les voient passer, mais ça évite la station. C'est pas anodin. Ouais.
Non, mais quand on est sur place, c'est vraiment impressionnant. Hein.
Et il y a les structures, l'importance d'une telle mission. Par exemple, les infrastructures pour la répétition des sorties extravéhiculaires ont lieu dans un énorme bassin. C'est la plus grosse piscine que j'ai jamais vue, avec dedans des répliques de la station. Donc là, vous voyez vraiment la taille de la station. En plus, elle est en morceaux, remis dans le désordre. Mais il y a tous les morceaux. Donc là, vous vous rendez compte déjà de la taille du truc. Vous voyez les astronautes plonger dans cette eau pendant 6-7 heures. Et là, vous réalisez ce que c'est qu'une... Enfin, à peu près, la durée d'une sortie extravéhiculaire. Vous vous rendez compte aussi de l'ampleur, la taille des trajets qu'ils doivent faire en combinaison. Je me souviens aussi au tout début, parce que nous, on pouvait regarder, ça se passait sous l'eau, mais nous, on pouvait regarder sur des écrans de contrôle. Ils sont à deux dans un énorme scaphandre, donc c'est en plus pressurisé. Et je me suis dit, mais comment ils voient ce qu'ils font? Enfin, c'est comme s'ils étaient dans une boîte avec juste un hublot. Et en fait, ils étaient tête bêche dans un sas vraiment pas gros et ils devaient brancher tout leur câble de sécurité. Donc c'est comme si vous étiez enfermé dans une boîte avec des câbles partout. Et je me suis dit, mais comment il a une visibilité de ce qu'il fait? Vous les voyez après l'entraînement et vous voyez que c'est très physique, quoi. Ils sont en nage, quand ils sortent, ils ont les mains qui tremblent parce qu'ils ont froid pour diverses raisons, mais aussi parce qu'ils sont probablement un peu tétanisés. C'est long, en fait, 7 heures. C'est pas une partie, juste je sors, t'as regardé ce soir, hop, je visse des trucs. C'est vraiment, tout est lourd et à chaque moment, il peut y avoir une fuite et tout. Il y a tellement de matériel, c'est impressionnant.
La piscine vous a impressionné?
Oui, la structure. Ouais. C'est difficile de s'imaginer la taille de la station. Donc là, vous voyez la taille des modules. J'ai vu la taille d'un panneau solaire dans un autre bâtiment. Oh, c'est vraiment énorme. J'ai vu aussi le canadarme, c'est le bras mécanique. Ah, c'est super grand. En fait, tout est énorme. J'avais une vision, je pensais pas m'être trop planté, mais quand on les voit en vrai, en plus, on fait ça, c'est dans l'espace, ça doit être... Et ça, c'est que le bras mécanique. Ah oui, c'est énorme, c'est incroyable qu'on ait envoyé ça là-haut. Ouais, les panneaux solaires aussi, c'est gros, tout est gros.
C'est sur le coup du...
Surveillez votre langue devant le roi, espèce d'abruti!
Est-ce qu'ils disent des gros mots?
Oui, comme quand on parle de manière familière, enfin. J'ai 2 ans de moins que Thomas, on parle de la même manière, et moi, je peux vous dire que des fois, je parle comme une charte.
Quand ils sont en mission, là, quand ils sont dans...
Je pense que des fois, ils font à la vache. Mais comme c'est en anglais, ça doit lâcher des mots, parce que c'est dur, c'est hyper physique. Des fois, ils ont peur de perdre un instrument. J'essaie d'écouter des fois, mais c'est comme c'est beaucoup de termes anglais, beaucoup d'acronymes, parce que c'est des éléments qui bougent, le SC sur le CH4, tous des trucs comme ça. Mais je ne serais pas étonné que oui, des fois, on entend des « Ah, fais chier !»
Le premier truc qui frappe, c'est la langue.
La langue?
Oui.
Vous êtes allé à Houston, vous êtes allé à la Cité des Étoiles, donc vous êtes polyglotte.
Ah non, alors je comprends mieux l'anglais que je le parle. Alors Houston, ça va, c'est américain. En russe, alors non, les Russes ne parlent pas trop anglais. Donc j'étais pas toute seule, j'étais avec une équipe de tournage que je me lasserai pas de remercier parce que je me suis greffée à eux pour les déplacements. Donc c'est ceux qui font Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros qui sortira l'an prochain sur les grands écrans. Sans eux, j'aurais vraiment fait aucun déplacement. Ils ont vraiment été adorables. Et donc, j'étais avec eux. Donc, c'est sûr qu'on était un peu entre Français. Non, les Russes ne parlent pas trop anglais. Donc, vous avez parfois quelqu'un qui vous escorte et qui parle un peu anglais. Mais non, le russe, non, je ne touche pas une ligne en russe. Après, pareil, à Cologne, il y a beaucoup d'ingénieurs français. Mais j'ai eu une discussion assez soutenue avec un médecin avec qui je parlais en anglais. Ah, j'étais fière de moi. J'ai tout donné.
T'as vu le costard?
Ah, ce sont des polos. Je pense que quand il est en mode astronaute, il se met avec les polos. Il y a aussi les insignes, Proxima, etc., la mission. Le public connaît bien le logo de la NASA, mais pas très bien celui forcément de l'ESA. Ça rappelle des symboles comme ça. Ils reçoivent des polos, oui, c'est vrai. T-shirt de sport aussi.
Une cuisine compliquée.
Si vous aviez goûté des plats, et est-ce que vous en avez goûté de ces grains?
J'ai goûté des biscuits, et oui, j'ai pu goûter un truc de Thierry Marx. J'ai réussi à... C'est hyper bizarre parce que les goûts sont plus marqués en fait. Parce que comme ils sont un peu congestionnés, je pense que le goût est un peu changé. Donc c'est marrant, c'est plus les sauces sont plus fortes en fait. L'assaisonnement est peut-être un peu plus marqué, mais c'est pas mal du tout. Thierry Marx, je crois que c'était pour les grandes occasions.
Ah bah tu sur vous, la conclusion est évidente.
Moi je trouve ça génial quand les divers métiers se rencontrent en fait. Enfin un auteur de BD dans de l'artistique qui normalement sort pas beaucoup de son atelier. Je trouve ça génial de sortir de son atelier, de rencontrer des gens qui font des choses très différentes. Je me rends compte que ça permet des deux côtés de bouger des préjugés en fait. Moi, des préjugés sur des fois les ingénieurs ou des chercheurs, sur ce qu'ils font ou d'autres domaines. Et eux, ils changent aussi leurs préjugés sur peut-être sur les artistes, etc. Ils se rendent compte du boulot. Je trouve que se rencontrer, échanger, c'est toujours bénéfique parce qu'on change d'aperçu. On a tous des préjugés ou des préconçus, mais c'est normal, je pense, parce que notre cerveau préfère avoir une idée des choses qui se fait plutôt que rien. Donc on se fait des idées, ce qui est un métier qui n'est pas le nôtre. Et c'est toujours enrichissant. J'ai encouragé les étudiants en art, même s'ils vont être très cloîtrés chez eux, parce qu'il y a un côté très artistique, de sortir, de rencontrer d'autres gens, de s'intéresser à d'autres métiers, etc. C'est toujours bénéfique. Et là, moi, j'aurais jamais dit, il y a 3 ans, on m'aurait dit, tu vas faire une BD sur un astronaute. Je ferais, mais qu'est-ce qu'un astronaute s'intéresserait à la BD, quoi, vraiment? Bah si, c'est possible. Donc c'est vraiment génial que les barrières entre des métiers s'effondrent, quoi. On a tout à gagner de ça. Donc il faudrait que des musiciens rencontrent des historiens, mais ça se fait, hein, mais des historiens parlent avec des physiciens, que des médecins potassent un peu avec des podologues, je suis pour. Podologie musique, il y a quelque chose à faire.
C'est expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question?
Le professeur Moustache.
Radi Sound.
Bienvenue, votre attention s'il vous plaît. Nous informons que la suite de l'espace ferme ses portes à 17h. Merci.
Mise en son, Claire Bigeot. Merci à Marion Montaigne et à la Cité de l'Espace. Extrait de Tu mourras moins bête, Nikita, Gravity, Kaamelott, L'aile ou la cuisse, Les compères, Radi Sound.